C'est quoi le plan, boss?
Me dis pas que t'es inquiet.
Salut! Salut! C'est Soundtrack.
C'était la dernière séquence. C'était sa dernière séance.
On a un gros décalage sur la vidéo. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. J'ai une petite voix, oui, je sais, Jérôme. Bienvenue durant
bonsoir aussi
numéro 23, votre rendez-vous musical et cinéma. Déjà un petit coucou à Seb qui a la technique audio et à Mylan qui a la technique vidéo. Vous
bonsoir,
nous retrouvez sur Facebook.
Bonsoir à tous.
On vous fait coucou. Et on a Jay qui nous fait déjà des sons bizarres.
Non.
Et ce soir, on met à l'honneur un maître du rythme et de la tension orchestrale.
Mort.
Lalo Schifrin.
T'as vu,
oui,
c'est beau. Hein.
Décédé cet été.
Oui.
Un compositeur, pianiste, chef d'orchestre argentin. Il a marqué aussi bien le jazz que le cinéma. Et pour en parler, justement, j'ai le plaisir d'accueillir un passionné de musique de film. Bonsoir, mon cher maître.
Oui, je me dis cirage tout seul parce que sinon, il faut attendre. Donc bon,
oui.
Voilà. Et sinon, Yves, ça va?
On est ravis.
J'ai la voix cassée. On est là pour parler de cet artiste qui a su allier swing, élégance et suspense. Non, c'est pas Yves. Schifrin's. C'est un pont entre le jazz et Hollywood.
Et également la bossa nova.
Voilà, oui.
On en parlera un petit peu, mais on va se concentrer sur sa carrière cinématographique parce qu'il a une carrière très très longue et justement avec des albums personnels également. Et
on va découvrir ensemble comment un pianiste formé à Buenos Aires est devenu le compositeur culte de Mission Impossible, que l'on écoute, la série, et Dirty Harry, que l'on n'entend pas encore.
Pour l'instant, on le retrouvera tout à l'heure. Et petit topo, on va dire, de la vie de Lalo Schifrin.
Oui,
il s'appelle
Boris.
Ouais. Boris Claudio Schifrin, dit Lalo Schifrin, né le 21 juin 1932 à Buenos Aires, est mort le 26 juin 2025. Il venait de fêter ses 83 ans à Los Angeles. Et il est donc pianiste, arrangeur, compositeur et chef d'orchestre américain-argentin. Et selon les périodes, il alterne ou mélange en ajoutant des touches de musique latine, ses passions de jeunesse, la musique classique, le jazz, les musiques de cinéma. Et Lalo Schifrin est connu pour avoir composé le générique musical donc de la série télévisée Mission Impossible. Et il est également renommé pour ses musiques de films telles que Bullitt, l'inspecteur Harry, Opération Dragon, et ainsi que pour d'autres bandes-sons de séries télévisées et téléfilms tels que Mannix, Starsky et Hutch, la version américaine, pas la version que nous on connaît en France. La version américaine est beaucoup plus dark. Et en 2018, un Oscar d'honneur lui est décerné. C'est un compositeur prolifique avec plus de 250 compositions au total. Et Lalo Schifrin travaille aussi bien pour le trompettiste de jazz Dizzy Gillespie que pour des symphonies. Et en fond sonore, on a un petit Battle Hymn of the Republic issu du film De l'or pour les braves. C'est, j'ai oublié le titre original, mais c'est un film qui mélange la comédie avec le film de guerre. C'est avec Tilly Savalas, Clint Eastwood. Et ça raconte l'histoire d'une petite compagnie américaine qui est proche des lignes allemandes en 44 et qui capture un officier allemand qui leur avoue que quelques dizaines de kilomètres au-delà des lignes allemandes, il y a une banque, et dans cette banque, eh ben, il y a de l'or. Et le concept, c'est que bah, justement, cette petite compagnie américaine va passer justement les lignes allemandes et va se retrouver à justement récupérer de l'or. Mais pour finalement, on va dire, être considéré comme des braves par les chefs militaires, parce que comme ils ont réussi à faire une percée au-delà des lignes allemandes,
bah oui, c'est
ça. Ils sont tous pris pour des braves d'avoir osé justement se confronter aux lignes allemandes et fait une percée, tout simplement.
Alors vous, je sais pas, mais moi ça m'évoque Bebel, Michel Créton.
C'est ça, ouais.
Hein, comment il s'appelle le troisième que tu m'as dit l'autre jour, je ne sais jamais. Michel Constantin.
Michel Constantin.
Et ça s'appelait les Morphalous.
Ouais, c'est ça.
Alors ouais, c'est vraiment ça, et on est vraiment dans l'état d'esprit de ça. C'est, on rigole, c'est la guerre, mais bon, c'est la guerre à Hollywood.
Oui.
C'est pas, voilà, c'est pas un pot trop loin, c'est pas le pont de Remagen, on n'est pas en train de débarquer.
Et
donc tout va bien.
Mais justement, c'est... tiens...
On l'écoute.
Mets-nous un petit peu le son... C'était très sympathique ce côté kazoo à la fin.
C'est ça.
L'hymne américain totalement décalé pour bien faire comprendre que
voilà,
justement c'est de l'or pour les braves. On est dans un film de guerre, mais on est dans une comédie.
Ah oui,
donc il y a tout ce côté décalé.
Oui. C'est très Morphalou, c'est très pour les Français, pour ceux qui ne l'auraient pas vu autrement. Et c'est vrai, moi je me le suis fait récemment, ça colle tout à fait. Ça se prend au sérieux, mais pas trop. On n'est pas sur les films de guerre de l'époque, hollywoodien ou pas. D'ailleurs, parlons un peu de M. Chiffrine et de son enfance, parce que lui, à 5 ans, il commence un cursus classique. Il étudie le piano avec Enrique Barenboim, qui se montre très sévère. Toutefois, il écoute du tango en cachette de ses parents et regarde plusieurs fois les mêmes films au cinéma afin de réécouter leur bande-son. La graine est déjà plantée.
Ouais.
Durant son adolescence, il étudie au Colegio Nacional de Buenos Aires et se découvre une passion pour le jazz. Lorsqu'il est étudiant en droit, Lalo Chiffrine suit les cours de piano d'Andreas Karalis, un ancien directeur du conservatoire de Kiev. Le gars a des profs, mais bon, bref. Puis il prend des cours particuliers de composition avec Juan Carlos Paz,
et
pendant lesquels aucun piano n'est utilisé.
Ouais.
Voilà.
Et en 52, Lalo Chiffrine passe au consulat français de Buenos Aires le concours d'entrée du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, qu'il réussit. Et à Paris, il étudie durant la journée, entre autres, auprès d'Olivier Messailleux. Pour afin de payer son loyer, il joue les nuits au sein d'orchestres de jazz dans les lieux comme le Club Saint-Germain. Et Chiffrine se familiarise avec les rythmes cubains qui sont populaires à Paris et en incorpore justement progressivement dans son style de jazz. Cependant, le dimanche matin, il écoute Olivier Messailleux jouer sur les orgues de l'église de la Trinité. Et à son regret, Chiffrine n'arrive pas à convaincre les personnes évoluant dans ces deux mondes musicaux favoris de s'intéresser les unes aux autres. Et c'était pas encore, on va dire, une capacité pour certains d'accepter le mix.
C'est le problème d'avoir raison avant l'heure.
Oui, c'est ça.
Certains.
Quand t'es avant-gardiste.
C'est toujours le même problème. Oui, oui, oui.
Mais on parle un petit peu justement de son appétence pour le jazz, où justement, à la même période, Lalo Chiffrine commence sa carrière professionnelle en France comme pianiste de jazz, compositeur pour le label d'Eddy Barclay. Il était partout, lui c'était un vrai dénicheur de talent, et arrangeur musical pour RCA France. Et il enregistre alors plusieurs disques de musique latine pour les disques Vogue et le label d'Eddy Barclay. Et après 4 ans passés à Paris, Chiffrine retourne en Argentine. On va dire, il a fait ses armes dans un des temples musicaux à l'époque, Paris, et donc justement tous les clubs de jazz. Il en profite pour composer également, entre autres choses, deux musiques de films, dont Elle. Alors, Jeffy, c'est de l'espagnol, j'espère que je l'ai bien prononcé, qui remporte le prix du meilleur film argentin. Et en 1956, une de ses idoles, le trompettiste Dizzy Gillespie, l'ayant entendu jouer à Buenos Aires, l'invite aux États-Unis.
Si.
Et voilà, c'est après avoir étudié en Argentine, à Paris, il voit les portes des États-Unis qui s'ouvrent à lui, et par un des meilleurs du jazz.
Mais comme on l'a évoqué, mon chéri, de la musique de film, souvent on y vient par connaissance, par connivence. C'est pas simple, on parlait des femmes récemment. C'est compliqué, on grandit souvent dans l'ombre. On est au bon endroit, au bon moment.
Ouais.
Souvent c'est... Et Lalo Chiffrine est multicarte, pour le coup.
Ouais.
Et on va parler justement maintenant un peu de musique de cinéma et de télévision le concernant. Chiffrine donc devient arrangeur pour le label Verve Records par l'intermédiaire de Clarence Savant. Il crée des arrangements pour Stan Getz, Count Basie, Sarah Vaughan, Jimmy Smith, Louis Bonfa, Cal Chad, etc. Verve appartient à la Metro-Goldwyn-Mayer, et on en parlait, les coïncidences.
Voilà.
Et Lalo Chiffrine devient compositeur pour cette dernière. Hop, c'est un truc en plus.
Ouais.
Le gars sait faire. Lalo Chiffrine s'installe alors à Hollywood fin 63. En 64, le fait qu'il parle français, c'est bien d'être polyglotte. Ça lui permet de réaliser la musique du film Les Félins de René Clément.
Avec Alain Delon et Jane Fonda.
Et on va écouter Les Félins, mon cher Seb.
Thank you.
Alors, selon Lalo Schifrin, on a laissé tourner pas mal de musiques différentes pour justement montrer toute la diversité musicale du compositeur. Et donc, selon Lalo Schifrin, René Clément, qui a donc réalisé le film Les Félins avec Jane Fonda et Alain Delon, m'a permis de révéler ce potentiel de combiner musique symphonique, jazz et électronique. Si l'on compare ma carrière cinématographique à une maison, Les Félins en sont les fondations.
À partir de 1965, Lalo Schifrin écrit plus de 100 musiques de films et près de 90 musiques de séries télévisées et téléfilms en mélangeant la musique classique et le jazz. À l'inverse, d'autres compositeurs au style toujours identifiable, Lalo Schifrin s'adapte particulièrement à la scène et à l'ambiance qu'il doit illustrer. C'est dans les films policiers et d'espionnage qu'il se montre le plus brillant.
Et par exemple, en 1966, Bruce Geller, un producteur, scénariste et réalisateur de séries télévisées, demande à Lalo Schifrin de créer la bande-son de la série Mission Impossible, qu'on avait eue en début et qu'on va passer un petit Jim on the Move. Alors, on a eu donc un Jim on the Move issu de Mission Impossible. Bon, Jim, c'est Jim Phelps, l'un des héros de la série. Par rapport à la série, il y a une petite anecdote justement, Lalo Schifrin avait composé la bande-son de la série Mission Impossible. Oui. Et une fois celle-ci terminée, il manque un générique.
En fait, c'est l'école George Lucas. Ouais. C'est l'école John Williams, quelque peu. Il faut qu'en quelques notes, et d'autres, on arrive à identifier le personnage, la situation qui va arriver. C'est une espèce de virgule en trois notes. On sent que James Bond arrive. C'est James Bond. Ouais. Et ben là, c'est la même chose. Il fallait ça.
Et donc, il avoue qu'il doit être capable de retenir l'attention et prévenir les personnes qui se trouvent, par exemple, dans leur cuisine, que la série va commencer. Oui, il faut se rappeler que dans les années 60, les séries télévisées passaient à une heure précise. Donc, vous vouliez ne pas rater l'épisode, si la série, c'était 15h15, 16h, il faut être à 15h15 devant son écran pour en profiter.
Ouais.
Si on n'est pas dans l'ère de la rediffusion. Et donc, justement, il faut pouvoir marquer les esprits. Et donc, Schifrin compose le générique sans se douter que cette ère à 5 temps deviendra célèbre dans le monde entier.
Bah oui. Et l'année suivante, il crée également le générique de la série Manix que l'on a entendu dans le générique de l'émission. Pour le même producteur, la bande originale du film Luc la main franche de Stuart Rosenberg, sortie elle en 1967, composée par Schifrin, est nommée pour l'Oscar de la meilleure musique de film. Le gars commence à se faire connaître, je pense, mon cher.
Et dans un des rôles iconiques de Paul Newman. Donc, justement, il se retrouve en haut de films très, très bankable et donc, justement, son nom va ressortir de plus en plus. Et là, Schifrin contribue également au succès du film Bullitt de Peter Yates en 68. Et en effet, il compose la musique qui précède la scène de la course poursuite avec Steve McQueen. Et surtout, impose au réalisateur de ne pas en ajouter sur la poursuite elle-même. C'est ça qui est fort, justement. C'est ça le rôle aussi d'un compositeur, c'est savoir à quel moment la musique est utile dans un film. Et donc, Seb, un petit bullet, Gifting Gears.
On attendait l'anglais.
Désolé, Tonton Bafouille est présent également... au micro, et donc Seb, un petit bullet Shifting Gears, s'il te plaît. Pendant que la technique gère la mise en place de la musique.
C'est du direct.
C'est du direct, c'est ça qui est bon. Et pour Seb,
Parce que Seb, c'est bien.
Ouais. Allez, avant la course-poursuite. Shifting Gears, bullet. en vedette de ce bullet, Steve McQueen, Robert Vaughn et Jacqueline Bisset. Il s'agit d'une adaptation du roman Un silence de mort, Mute Witness, de Robert Fish. Et le film suit Frank Bullitt, un lieutenant de police de San Francisco qui est chargé par un homme politique ambitieux, Walter Chalmers, de protéger Johnny Ross, gangster dont le témoignage est capital dans un procès.
Dans un procès, oui. Où est impliquée cette personnalité politique ? Malgré les précautions prises par Bullitt et ses hommes, Ross est grièvement blessé et décède des suites de ses blessures. Ça va, Yves ? Ça va mieux ?
Je vais survivre, moi. C'est voilà. Pas des blessures. Je faisais une patoche.
Voilà. Sur son lit d'hôpital, donc, les blessures.
Ouais.
Bullitt mène alors l'enquête pour retrouver les meurtriers.
Et le film est distribué par Warner Bros.
Bah oui.
Seven Arts, le 17 octobre 1968. Et Bullitt est un succès critique et commercial, gagnant en 69 l'Oscar du meilleur montage décerné à Frank Keller et une nomination pour la meilleure bande son. Donc déjà, il commence à être largement reconnu, là, le Schifrin. Au niveau de ses compositions, il est dans plein de bons films avec des acteurs bankable.
Ah
donc
oui.
Ça veut dire que voilà, maintenant il
c'est
est
bon.
Associé
là,
dans les années 60.
Dérouler. Il va pouvoir dérouler, mais il va se prendre aussi les pieds dans le tapis, car justement, actuellement, nous sommes en train d'écouter mon cher Yves.
Che.
Oui.
Ouais.
Et ça porte bien son nom, Che.
Ouais.
Voilà.
Le Che Guevara, Ernesto Che Guevara.
Alors, biographie du révolutionnaire argentin Ernesto Che Guevara. Le Che rejoint Fidel Castro dans sa lutte contre le régime corrompu du dictateur Fulgencio Batista. Ils parviennent à renverser le gouvernement et à la prise de Cuba par Castro. Alors ça, c'était sur le papier parce que dans le film, tout ne s'est pas bien passé, mon cher Yves.
Musicalement,
oui.
La bande-son est excellente, c'est Lalo Schifrin. Le thème est très intéressant, puisqu'on parle quand même d'une page d'histoire avec donc Che Guevara et Fidel Castro avec la prise de pouvoir à Cuba.
Le casting
Au
est monstrueux.
Au niveau du casting,
y a un putain
Omar
de
Sharif dans le rôle de Che Guevara.
Ouais.
Mais,
alors,
y a
petit
un
indice,
gros mais.
Omar Sharif dira plus tard de ce film à ceux qui voulaient encore lui en parler. Je cite mon cher Yves.
Ah non, c'est...
Il a dit, en gros, si on pouvait parler d'autre chose, ou si on pouvait carrément oublier
c'est
le film.
C'est un peu ça. Il a carrément avoué que... Bah, il n'avait pas préparé le rôle.
Oui,
voilà.
Non. Il était en roue libre.
Il était en roue libre.
Mauvaise direction d'acteur, mauvaise. Ce film est une bouse.
Et
voilà.
Mais
bon, c'est Hollywood.
Mais voilà. Si vous voulez voir le film... Allez-y, mais préférez celui avec Benicio del Toro.
Mais estimez-vous prévenu.
Voilà. Mais pour la musique, vous pouvez prendre celui justement de 69 avec justement la bande son de Lalo Schifrin qui est excellente. Bah, en même temps, il a des origines argentines, donc
oui.
Voilà, latino, ça permet de faire ressortir plus bossa nova, jazz et compagnie. Donc justement,
fait,
il sait s'adapter complètement à ça. Et on va passer à un petit côté à nouveau complètement décalé, comme on a raconté tout à l'heure. Déjà, on va vous remettre un petit Kelly's Heroes theme de l'or pour les bras. Parce que justement, je ne retrouvais plus tout à l'heure le nom du film, c'est Kelly's Heroes. Parce que justement, l'un des protagonistes s'appelle Kelly, c'est le chef de la section justement.
C'est ça, c'est le lieutenant Kelly, c'est le
bras
cassé. C'est le baroudeur,
Qui a réussi à faire parler un des gradés allemands qu'ils ont capturé, leur annonçant donc il y a de l'or de l'autre côté des lignes allemandes. Et allez, on va se le mettre pour en profiter pleinement. Merci Seb. We'll be right back. Alors là, on était avec de l'or pour les braves. Et maintenant, on va passer, on est toujours dans les années 70-80.
Ouais.
Et on va passer
en 73.
À Clint Eastwood qui sort son gros flingue. Il est l'inspecteur Harry. Et il a été dans pas mal.
Non, mon chéri,
Si.
Non. Là, on a été à côté d'entrée. On fait Hunter to the Dragon.
Ah, eh oui.
On me fait signe que veut bien se finir.
Tu me l'as décalé déjà ?
Ah non, j'ai rien décalé du tout, c'est la suite. Donc, ah non, pardon, oh là,
boulette. Tu es fatigué, mon garçon,
Je me mets au coin, allez-y, parlez,
oui,
mon chéri.
Je disais donc que nous abordons l'inspecteur Harry dans les années 70 avec Clint Eastwood.
Le fameux.
Et là, en fond sonore, on a Magnum Force, le main title. Issu du troisième épisode déjà, l'inspecteur ne renonce jamais.
Ouais, c'est ça. Si vous en avez eu un, vous n'avez peut-être pas vu tous les autres, mais bon, ça se tient.
Et en même temps, il y a combien de phrases iconiques sorties
Alors, faut y aller pour ça.
Ouais.
Faut y aller pour ça. Oui. Et puis, allez-y aussi pour les nuls. Ils ont fait quelques morceaux intéressants avec Dirty Harry.
C'est ça.
Et justement, tiens, San Francisco, pour un petit synopsis, secoué par une série de mystérieuses... punition exécutive de criminel, Harry Callahan se voit signé par son supérieur, qu'il n'aime pas, hein, comme d'habitude, il n'aime personne. Le lieutenant Nell Briggs, un nouveau coéquipier, un débutant, nommé Early Smith, rien que les noms, c'est un bonheur. Voilà, Briggs a également changé de poste Callahan et l'a mis à la surveillance. Il n'aime pas ça, gros pépère, il a un gros flingue, il faut que ça serve.
Ouais.
Prétendant une intervention trop violente lors d'une arrestation, Harry le croyant simplement jaloux, non.
Callahan,
n'hésite pas à le contrarier et intervenir. Alors, le contrarier, il a une manière toute à lui de contrarier les gens. Un coup de flingue. Il n'hésite pas à intervenir quand même dans diverses affaires et à buter allègrement à tout va. Hein.
Ouais.
Voilà, parce que Charles Bronson pourrait être jaloux, là, beaucoup. Ouais. Hein.
Et donc, Lalo Schifrin a fait, si je ne me trompe pas, je crois qu'il y a 5 films Inspecteur Harry. Je crois qu'il en a fait 4
sur
les musiques de films. Le premier, Dirty Harry, il y a Sudden Impact. Il y a donc celui-là et j'ai oublié le quatrième dont il a fait la composition. C'est pas bien, vous viendrez me frapper en sortie d'émission. Attendez 22h quand même.
Alors voilà, actuellement, justement, puisqu'on ne va pas frapper Yves, nous écoutons le thème Hunter the Dragon, car Bruce Lee en 73 choisit Lalo Schifrin pour la musique du film éponyme, donc Opération Dragon, car il s'entraîne quotidiennement sur la musique de Mission Impossible.
Allez, on se le met un petit peu en...
Thank you.
Là, c'est encore une preuve que Lalo Schifrin sait s'adapter à tous les styles de films, parce que film de guerre, film comique, film d'aventure, film d'arts martiaux, celui-là
étant
une référence.
Voilà. Opération Dragon, film d'arts martiaux américano-hongkongais réalisé par Robert Clouse en 73, avec dans les rôles principaux Bruce Lee, John Saxon et Jim Kelly. C'est le dernier film tourné par Bruce Lee avant sa mort le 20 juillet 73 à l'âge de 32 ans. C'est tôt. Ouais. Opération Dragon est largement considéré comme l'un des plus grands films d'arts martiaux de tous les temps. En 2004, il est sélectionné pour être conservé au National Film Registry de la Bibliothèque du Congrès en raison de son importance culturelle, historique et esthétique. La même année, sa composition pour le film L'Exorciste n'est pas retenu par William Friedkin. Qu'à cela ne tienne, est en train de l'entendre. Il s'est vengé, pépère. Bon, c'est moi qui le dis.
Oui.
Il nous a fait Amityville.
Ouais, la maison du diable. Allez, Seb, on va voir les chocottes. Ce côté grinçant.
Ah oui, saturé.
Suraigu, saturé.
Saturé, qui dérange.
Mais là, on est bien dans un film d'horreur.
C'est le moment du synopsis.
Oh, il nous fait Amityville, ça, Jérôme.
Amityville, banlieue de New York, 13 novembre 1974. Dans une maison bourgeoise, un jeune homme, dans un accès de démence, tue à coup de fusil ses parents. On s'occupe comme on peut.
Ses frères et ses sœurs.
Ce serait le bonheur.
Ce serait de l'horreur.
À son procès, il affirme avoir été possédé par une voix lui ordonnant de tuer tous les siens. Ça occupe.
Bravo.
Bon, tant mieux, c'est une excuse. En 76, parce qu'il faut bien faire un 2 certainement, la maison est mise en vente à un prix défiant toute concurrence, tu m'étonnes. La famille Lutz, quel prénom de con. Quel nom de con, franchement, l'achète. Ah ben, on est aux États-Unis, hein, il faut des victimes avec marqué victime. Malgré la tragédie qui s'y est déroulée, bah oui, hein, elle est pas chère. Ils n'y resteront que 28 jours. Plus tard, diront ceux qui connaissent le film de Danny Boyle, durant lesquels les phénomènes paranormaux leur feront vivre un véritable cauchemar. Il y en a eu plusieurs des Amityville. Ils l'ont reloué plusieurs fois, la baraque de merde, on est d'accord quand même. Hein.
Ils n'ont peut-être pas réussi à la raser, parce que tout était fait pour empêcher de la raser.
C'est ça. Et pendant ce temps-là, nous sommes en train d'entendre le film, la musique du film Rush Hour. En 98, 2001 et 2007, Lalo Schifrin compose la musique de cette trilogie Rush Hour de Brad Ratner.
We'll be right back.
On va vous raconter un petit peu. Bon, ouais. C'est un buddy movie. Hein, oui. Voilà, les trois.
Assez classique.
Les trois, voilà. Sino-américain. Voilà. Oui. Et on joue sur les différences culturelles. Il y en a un qui fait du karaté, l'autre qui cherche son charisme.
Ouais.
Ouais, c'est à peu près ça. Bon, en gros, un inspecteur de Hong Kong, loyal et dévoué, il en faut un, fait équipe avec un détective de Los Angeles Police Department pour sauver la fille kidnappée du consul chinois tout en essayant d'arrêter un dangereux baron du crime en cours de route.
Oui.
Bon. Oui. Bah, vous me jugez ici à part 3 et vous faites une trilogie.
Voilà. Ouais.
Vous débranchez le cerveau, ça permet d'aller au cinéma. Bon. Alors, qu'est-ce qui fait le style Chiffrine ? On peut dire des mesures impaires, oui.
Oula.
J'ai bossé mon solfège.
Oula, pas moi.
Une écriture jazzy, ça, oui. On s'en est rendu compte, mais aussi une orchestration dramatique.
Ouais, et c'est un compositeur qui pense comme un jazzman et orchestre, comme un symphoniste. Il ose des dissonances, des ruptures de tempo et des timbres inédits.
Et il reste toujours lisible. Chaque motif raconte quelque chose. On pourrait presque voir le film en écoutant la musique seule.
Et d'ailleurs, bah, il a souvent dit « Ma musique doit respirer le mouvement
bah, ». C'est une belle définition du cinéma. Hein.
Ouais.
Voilà. Tiens. Et d'ailleurs, nous sommes en train d'entendre « C'est Flintstone à lui, quelque
oui.
part ».
C'est en 81, il y a un film. Ah, rien qu'aller voir la bande-annonce du film.
Oui,
aller
voir. Ouais. Avec l'affiche déjà.
Ringo Starr et Barbara Bach. C'est, mais alors. Et Dennis Quaid, jeune. Ouais. Et là, on se dit. Ouais, c'est ça, c'est les Flintstones. C'est
oui,
complètement
c'est ça,
décalé,
les dinosaures, ça. Mais c'est vraiment ça. Ouais.
C'est. Allez, tiens, Seb, mets-en un petit bout qu'on profite. Bon, là, on sent bien le côté symphonique dans cette musique de Caveman, parce que justement, pour reprendre un petit peu son historique, Lalo Schifrin commence à composer des symphonies dès les années 60, et toutefois, c'est surtout à partir des années 80 qu'il mène en parallèle une carrière de musicien.
classique, ouais. comme chef d'orchestre et comme compositeur. Il mène les deux de front,
ouais.
même si celle-ci est moins prolifique. Et on le sent, on en parlait, mon cher Yves, on disait, tiens, c'est marrant, il y a un peu plus de beat, il y a un peu plus de films de seconde zone et compagnie. C'est normal, il ne faisait pas que ça.
Mais il a une très grande discographie en son nom, dans ouais. de la bossa nova, ouais. dans du classique, dans des musiques de Noël, dans plein de styles. Donc justement, ouais. comme il est tellement partout à la fois... je pense que de temps en temps, oui, il y a le côté un peu désinvolte qui se met en place pour une musique de film. C'est,
oui,
je suis
oui.
moins concerné. Allez, je sais faire, on me demande
oui,
un truc,
voilà,
j'ai le cahier des charges,
ça.
Je lâche le truc. Et au fil des ans, il dirige ou supervise plusieurs concerts lyriques ou classiques à Paris, Londres, Los Angeles, Vienne.
Oui.
Et en 94, à partir de 94 jusqu'aux années 2000, Lalo Schifrin enregistre 7 albums donc de jazz orchestral.
Donc là, on monte en puissance.
Ouais. Ouais. Et avec justement Jazz Meets the Symphony.
En 90 à Rome et 94 à Los Angeles, Lalo Schifrin est pour la troisième fois en 98 l'arrangeur des concerts Les Trois Ténors, regroupant les ténors Placido Domingo, José Carreras et Luciano Pavarotti. C'est juste énorme.
Ouais.
Oui, voilà. Ces concerts se déroulent lors des Coupes du Monde de football. Selon Lalo Schifrin, grâce aux records de aux records de vente d'un de ses albums, ses travaux d'arrangement se révèlent être de loin les plus profitables financièrement de toute sa carrière.
Ah,
en même temps, les trois gaziers d'avant, c'est pas des inconnus non plus.
Et c'est pas des mauvais.
Et on retrouve ici le raffinement de ses orchestrations, une profondeur émotionnelle. C'est presque du Ravel matinée de jazz.
Oh ouais. Et voilà. Donc, ça prouve qu'il n'a jamais cessé d'explorer. Et son écriture reste libre, ouverte, vivante. Et aujourd'hui, son empreinte est partout, dans des musiques de films d'action, dans le jazz moderne, dans le hip-hop également.
D'ailleurs, il y a beaucoup de reprises de ce
ouais.
qu'il a fait, lui. Mais bon, comme beaucoup. Alors, si on devait résumer Lalo Schifrin, mon cher Yves.
C'est un compositeur qui a su relier le jazz à l'image, l'attention au swing et l'intellect au rythme.
C'est une œuvre éclectique et intemporelle, un véritable architecte du son. Et sa musique, plus de 50 ans après, elle reste moderne.
Et donc aujourd'hui, pour ce soundtrack, on rendait hommage à Lalo Schifrin qui nous a quittés
oui.
le 25 juin 2025 à 83 ans. On vous dit au revoir. Désolé, on n'a pas fait coucou à ceux qui nous suivaient sur Facebook.
Donc
merci à Seb à la technique.
Merci Seb, parce que Seb, c'est
bien.
Merci à Mylan derrière les caméras.
Ouais.
Hein, où est-il ? Il est là. Sinon, on le voit.
Merci
on le voit. Il va nous faire son accent du Sud. Non.
Merci
mon cher Yves.
Et on se quitte. Et on se retrouve en décembre pour la session numéro 24 où on va avoir froid, mais je pense qu'on va frissonner pas que de froid. Et on va se quitter avec quoi ?
Nous sommes en 68. Et comme cette émission se termine, le film Bullitt. Salut.
Salut.